RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. Il y a 11 ans, la ville, connue comme la Big Easy, la Grande Facile, plongeait dans le chaos. Suite à la rupture de plusieurs digues, l'ouragan Katrina inondait 80% de la Nouvelle-Orléans, qui est pratiquement restée paralysée pendant plus de 6 mois. Avec 1800 morts et 130 milliards d'euros de dégâts, Katrina reste à ce jour le pire désastre naturel de l'histoire des États-Unis. Ville plus latine qu'anglo-saxonne, avec une forte influence française et caribéenne, la Nouvelle-Orléans est toujours en pleine reconstruction. Longtemps très pauvre, à la population noire à près de 70%, avec ses quartiers définis par la couleur de peau de leurs habitants, une criminalité florissante, des infrastructures vieillottes et une économie dépendante du tourisme, elle s'en est remise, mais est-ce bien la même ville qu'avant Katrina ? Grand reportage de notre envoyé spécial à la Nouvelle-Orléans, Eric Sanson.
Vu du fameux quartier français, Katrina n'est apparemment qu'un lointain souvenir. Les orchestres de jazz continuent d'attirer des milliers de touristes qui s'affichent verre en main dans la moiteur ambiante. Bourbon Street est toujours aussi chaotique. Le taux d'occupation des hôtels est plus élevé qu'avant Katrina et l'économie de la ville est apparemment florissante. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire, selon Cédric Grant, directeur du service des eaux et égouts de la mairie.
Après avoir reconstruit les digues et les systèmes anti-inondation, nous commençons tout juste à reconstruire les infrastructures à l'intérieur de la ville. Rappelez-vous qu'après le passage de Katrina, l'eau est restée 6 semaines avant d'être évacuée. Elle a causé de gros dégâts, par exemple sur les routes et les égouts. On a fait un inventaire complet, mais pour des raisons de budget, on a dû aller à l'essentiel, aux travaux de protection. Maintenant, on va s'attaquer aux rues.
Après la reconstruction des hôpitaux détruits, la ville continue d'améliorer les infrastructures vieillissantes avant Katrina, par exemple dans le domaine de l'éducation.
Nous avons obtenu l'autorisation de dépenser 1,2 milliard de dollars pour construire de nouvelles écoles. Elles ont été construites en hauteur, elles sont plus sûres pour pouvoir survivre à de futurs ouragans.
Les écoles sont un bon thermomètre de la situation de la Nouvelle-Orléans. D'abord parce qu'il en faut moins qu'avant. La ville a perdu plus de 100 000 habitants par rapport à l'avant Katrina. La population noire ne pèse plus que 60% du total des habitants, contre 68% en l'an 2000. Suite à la paralysie complète de la Nouvelle-Orléans après la catastrophe, une grande partie de la population, notamment les enseignants, a dû chercher son salut au-delà des frontières de Louisiane. Karen Gadbois, journaliste du média local The Lens.
Tous les professeurs ont été virés après Katrina, car les écoles sont restées fermées 6 mois. Et ils voulaient se débarrasser des syndicats d'enseignants. Les écoles privées ont pu rouvrir, mais pas les publiques.
Les gens sont également partis, car après l'inondation de 80% de la ville sous des mètres d'eau, ils n'avaient tout simplement plus d'endroit où s'installer.
De nombreux propriétaires n'étaient pas assurés. Quand l'ouragan est arrivé et a détruit leur maison, ils n'avaient pas assez d'argent pour reconstruire.
Malgré les aides à la reconstruction, beaucoup d'autres ont été victimes d'abus. Walter Harris le troisième a passé 1 an à Baton Rouge et au Texas après la catastrophe.
Tout le monde a dû partir, tout était détruit ici. Tout était sous l'eau. La maison de ma grand-mère, de mon père, de mon oncle, elles étaient toutes inondées. Ensuite, tout le monde a été arnaqué par les maçons payés pour reconstruire. Ils ont pris l'argent des assurances et du programme connu comme le Road Home. Ils étaient censés réparer, ou plutôt reconstruire les maisons. Et en fait, ils ont fait quelques travaux et puis ils ont laissé tomber et ils ont disparu.
Déjà complexe pour les propriétaires comme Clayton Delry Edwards, la situation est devenue franchement inextricable pour les personnes obligées de louer.
Vous ne devez pas oublier que la Nouvelle-Orléans a toujours eu un très grand pourcentage d'habitants qui louaient leur logement, année après année, décennie après décennie. Les locataires n'ont pas eu droit aux 150 000 dollars offerts par personne pour la reconstruction. Seuls les propriétaires y ont eu droit. Parfois, ce qui s'est passé, c'est que les locataires ont été forcés à quitter leur logement pour que la rénovation ait lieu. Mais une fois les travaux terminés, ils n'ont pas pu revenir y habiter car les loyers avaient trop augmenté.
Ce qui n'a pas augmenté en revanche, c'est le salaire. L'emploi est toujours très dépendant des hôpitaux et des services, notamment touristiques. Les serveurs, par exemple, gagnent 2 euros de l'heure, plus les pourboires, de 3 à 4 fois moins que le salaire minimum.
Le marché du travail, pendant des années, a été dominé par le tourisme, ce qui veut dire que les gens gagnent, à la base, le salaire minimum. Ce sont les serveurs des restaurants, les bonnes dans les hôtels. Ce sont des gens qui font du bon travail et nous avons besoin d'eux, mais ils sont mal payés. Donc avec le marché de l'immobilier qui monte, les loyers qui augmentent, les gens ont du mal à trouver un logement. S'ils ont dû quitter la ville à cause de Katrina, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'y revenir.
Face à une nouvelle ligne de cable car, de tramway en construction, le marché de Saint-Roch est révélateur des contradictions de la reconstruction en cours. Après avoir elle aussi abandonné la ville pendant plusieurs années, Jessica Allen a pu revenir car elle a eu la chance d'être logée par sa grand-mère, propriétaire de son logement. Elle travaille au marché Saint-Roch, toujours entourée de propriétés fermées et d'immeubles abandonnés.
Après l'ouragan, il n'y avait plus rien ici. Le marché a été abandonné pendant 6 ans. C'était un immeuble condamné. Les fenêtres étaient fermées, avec des planches, mais il y avait quand même des SDF, des gens drogués. C'était pas rassurant de marcher par ici.
Avec la construction de ce marché passé de populaire à tendance, le quartier a lui aussi commencé à évoluer.
Il y a un centre pour les musiciens, une galerie d'art juste au coin, un studio pour les acteurs, un café. Il y avait quelques trucs avant Katrina, mais le reste est nouveau.
Un changement auquel les habitants originels du quartier ont eu du mal à s'habituer. Jessica Allen.
Quand le marché a ouvert, il y a eu pas mal de polémiques, mais les vendeurs ont fait un effort. Ils ont baissé les prix. Ils acceptent les paiements par timbre de nourriture pour que les locaux se sentent à l'aise.
Ville traditionnellement noire, pauvre et bon marché, la Nouvelle-Orléans est en train de changer sous l'impulsion d'un mot que l'on entend partout, la gentrification, l'équivalent américain de ce que l'on appelle parfois en France la boboisation. Jinx Colmal-Broussard, professeur de l'Université de l'État de Louisiane.
La gentrification est un processus au cours duquel les Blancs qui vivaient dans les banlieues où ils s'étaient installés dans les années 70, 80 et 90 reviennent au centre-ville, dans les quartiers majoritairement habités par une population afro-américaine. Ils y ont construit de grandes maisons qui peu à peu remplacent les habitations plus modestes de la population d'origine et de ce fait les expulsent du marché.
Pourtant, ce processus a aussi des avantages, selon Clayton Delery Edwards.
La gentrification a lieu partout dans la ville. Après une longue période de pauvreté, avant Katrina et après la destruction provoquée par l'ouragan, de nombreux quartiers qui étaient devenus des bidonvilles sont maintenant transformés et revitalisés.
C'est par exemple le cas de la zone connue comme Marigny, à la lisière du quartier français. Outre que l'on y écoute la meilleure musique live de la ville, ce quartier est un bastion de la communauté gay qui s'y installe de plus en plus. Par exemple, le jeune ingénieur Alex Papestra.
J'ai acheté il y a 4 ans pour toute une série de raisons. Je voulais un duplex pas cher pour partager avec l'ami avec qui je vis. C'est près de mon travail et du travail de mes amis. Quand j'ai acheté il y a 4 ans, le quartier était bien meilleur marché. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus cher.
Un constat que partage Clayton Delery Edwards.
Ce n'est pas cher comparé à New York, Los Angeles ou San Francisco, mais c'est beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans.
Cette évolution démographique de la ville, le retour de la population blanche, a aussi modifié des rapports de force et la structure du pouvoir local, regrette Jinx Coleman.
La gentrification a aussi fait basculer les centres de pouvoir à la Nouvelle-Orléans. Avant, la plupart des responsables élus étaient afro-américains. Aujourd'hui, dans toute la ville, nous n'avons plus que le shérif et un conseiller. Et les Noirs ne sont plus en majorité au conseil municipal.
Il faut s'éloigner du centre-ville pour que l'impact de Katrina redevienne omniprésent avec partout des immeubles abandonnés aux fenêtres couvertes de contreplaqués. C'est notamment le cas du Lower Ninth Ward, un quartier pratiquement détruit par la rupture de la jetée du canal industriel. Jusqu'à présent peu touché par le phénomène de gentrification, ce quartier voit peu à peu arriver de nouveaux habitants, attirés par des prix encore très bas, tout au moins pour les nouveaux arrivants. William Harris, le troisième.
Il y a des changements qui ne plaisent pas. Avant, ici, tout le monde se connaissait. Maintenant, il y a des visages nouveaux, un peu partout. On ne peut plus sortir ou faire des fêtes comme avant. Hier d'ailleurs, ici, on a essayé de me voler.
Sur l'avenue principale, où il n'est pas prudent de s'aventurer de nuit, Cortland Vernon dirige la reconstruction d'un petit édifice.
On est en train de refaire un immeuble d'appartements. On en a 4 en tout. On en a fini un et en ce moment, on travaille sur les 2 d'en haut. Le Lower Nine fait la dernière zone où les gens reviennent s'installer parce que c'était la plus détruite. Du coup, c'est moins cher que la zone de Baywater ou du centre où il y a eu des inondations aussi.
Le Lower Nine Ward ressemble encore à la campagne. Difficile d'imaginer la ville qui s'y dressait il y a 11 ans avant que les habitants ne partent en masse. Dans l'un des rares magasins du quartier, Mike n'a toujours pas beaucoup de voisins.
Not many.
Peu sont revenus, beaucoup sont partis et ne sont jamais revenus. Ils disent qu'ils ne le feront pas tant que le quartier et les maisons ne seront pas réparées. Ils sont dans différents états, il y en a beaucoup au Texas, à Houston, mais ailleurs aussi.
In different states, is in Houston, Texas, all over. We want to help.
On veut aider notre nouvelle génération, bien les élever, construire une nouvelle communauté. Mais pour ça, on a besoin d'équipement. Il n'y a pas de restaurant pour les jeunes, par exemple. On a besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-nous.
Même si elle a beaucoup tardé, essentiellement pour des questions de budget, l'aide est pourtant en chemin, selon Cédric Grant de la mairie de la Nouvelle-Orléans.
Nous avons réinvesti récemment dans des infrastructures publiques, des parcs, des jeux pour les enfants, un centre communautaire. Nous avons refait les jetées et le quartier est entouré de protections pour qu'il puisse survivre.
La question aujourd'hui est de savoir qui profitera de ces nouvelles installations. Pour les habitants d'avant Katrina, le temps presse car plus il passe et plus les propriétés abandonnées sont rachetées par de nouveaux habitants ou récupérées par la mairie. Cortland Vernon.
Beaucoup de gens ne sont toujours pas revenus. Il y a beaucoup de propriétés à acheter à bon prix. Ils ont juste couvert les trous et les fenêtres. Ils viennent de temps en temps où ils payent des gens pour couper la pelouse et éviter les amendes de la mairie. Quand les amendes s'accumulent, la mairie finit par récupérer la propriété. Ils exproprient ou la mettent en vente aux enchères.
De l'autre côté du canal, dans le Upper Nines, Aaron Ransom observe lui aussi le blanchiment du quartier où il vit depuis plus de 40 ans. Il se demande s'il ne s'agit pas d'une politique visant à changer l'équilibre démographique de la ville, même s'il n'a rien contre plus de mixité sociale.
C'est magnifique, mon quartier est aujourd'hui très diversifié avec des gens de différentes races, de différentes nationalités. Et c'est vraiment super, avant la population était noire, il n'y avait qu'une seule race ici alors qu'aujourd'hui on apprend à vivre ensemble.
Selon Jinx Coleman de l'Université de l'État de Louisiane, s'opposer au retour des Blancs dans des quartiers où avant ils ne mettaient pas les pieds serait de toute façon probablement impossible.
On ne peut pas dire aux Blancs « ne revenez pas ». Beaucoup sont contents de les voir revenir car ils ont les moyens de payer et cela améliore les rentrées des impôts.
Attention pourtant au risque de tensions sociales entre communautés. Cortland Vernon, lui non plus, n'a rien contre des quartiers blancs et noirs, mais il demande aux nouveaux venus de faire un effort d'adaptation.
Il y a des gens qui ne sont pas du coin et ne comprennent pas les locaux. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais les gens ont leur façon de faire les choses, ils sont relax. C'est une culture qui vient de loin. Donc si tu viens ici, il faut essayer de comprendre, de s'adapter, et tu feras ton chemin ici tranquille.
Un avis que partage le musicien William Harris III.
Ce n'est pas un problème que le quartier soit plus diversifié et qu'il y ait plus de blancs par ici. Le problème, c'est que certains nouveaux venus n'ont pas appris à ne pas se mêler des affaires des autres. Ici, on aime jouer de la musique et faire la fête tard, et parfois, ils appellent la police à cause du bruit. Nous, on s'en fiche, on continuera de vivre comme avant. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils peuvent venir ici et changer notre façon de vivre ?
Si la reconstruction est encore en marche pour de nombreuses années, la ville post-Katrina reste à découvrir, selon la journaliste Karen Gadbois.
Quand on parle de restauration, normalement cela veut dire revenir à l'état d'origine. Or souvent ce n'est pas le cas. Après la restauration et la reconstruction, on voit que les choses ou les gens sont différents. Je crois que nous sommes en train de découvrir ce que nous sommes devenus après la catastrophe et que certaines choses se sont améliorées, mais pas toutes. Tout n'a pas changé, on est toujours aussi bordélique et c'est plutôt agréable.
On En attendant de connaître cette Nouvelle-Orléans qui se bâtit jour après jour, la ville essaye de se transformer et d'avancer sans y perdre son âme musicale, bohème, libérale, avec des accents français et antillais. Une ville américaine, certes, mais qui ne ressemble encore à aucune autre. Grand reportage, Éric Sanson, réalisation, Ludivine Amadou.
Bonjour Éric Sanson.
Bonjour.
Alors on l'a compris, ce n'est pas tout à fait la même Nouvelle-Orléans qui se reconstruit. Avant d'en parler, est-ce que la ville est sûre? On a vu ces derniers jours de grosses inondations en Louisiane.
Les autorités de la ville indiquent avoir tiré les leçons de la catastrophe de 2005, notamment quant à la construction et le contrôle des digues qui avaient cédé à de multiples endroits. À l'époque, cela avait inondé 80% de la Nouvelle-Orléans, qui est une ville construite un peu comme au fond d'un bol entre le lac Pontchartrain et le Mississippi. Depuis 11 ans, la ville a renforcé les jetées qui la protègent des inondations, mais sans avoir les moyens de les amener à une hauteur suffisante pour éviter de futures grosses inondations. Cela dit, le système d'évacuation des eaux a été renforcé. En juin dernier, 3 grosses pompes étaient sur le point d'être installées. Leur rôle sera d'évacuer l'eau stagnante en cas de futures inondations vers le lac Pontchartrain. N'oublions pas que dans certaines zones, l'eau était restée 6 semaines dans les rues de la Nouvelle-Orléans avant d'être évacuée et avait provoqué de très graves dégâts qui ne sont toujours pas réparés d'ailleurs sur le réseau routier de la ville et les égouts.
Ce qui étonne aussi, Éric Sanson, c'est ce pourcentage important de la population, notamment afro-américaine, qui n'est pas revenue.
Alors, il est très difficile, lorsqu'on parle à la population, de trouver des gens qui n'ont pas quitté la Nouvelle-Orléans après Katrina. Dans les zones les plus touchées, comme l'arrondissement connu comme le Lower Ninth, la population a été soumise à un couvre-feu pendant 6 mois. La zone a été détruite quasiment en totalité et la population ne pouvait s'y rendre que pendant la journée pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Il n'y avait pas de travail et les gens ont dû partir. Il n'y avait strictement rien à faire à la Nouvelle-Orléans. Beaucoup sont allés au Texas, mais également dans les autres États des États-Unis et ils ont refait leur vie. La Nouvelle-Orléans est considérée comme une ville pauvre, plutôt bon marché si on la compare avec New York ou San Francisco. Les gens travaillent essentiellement dans les hôpitaux, les restaurants, l'hôtellerie, le secteur touristique. Ce qui veut dire généralement salaire minimum. Beaucoup ont trouvé de meilleurs emplois hors de la Nouvelle-Orléans et ont décidé de ne pas revenir. Donc beaucoup d'autres ne reviennent pas, eux, car le coût de la vie a fortement augmenté justement dans la ville.
Vous en parliez dans votre grand reportage, c'est un peu le résultat de ce phénomène de gentrification, le retour des Blancs dans des quartiers traditionnellement noirs.
Absolument, comme il a fallu reconstruire les infrastructures détruites de la ville, alors évidemment les nouveaux hôpitaux, les écoles ont été refaits en mieux. Tout cela a augmenté le prix de l'immobilier, ce qui a été plutôt favorable pour les propriétaires, mais pas pour les locataires. De nombreuses personnes n'ont pas pu reconstruire leur maison malgré les prêts qui pouvaient aller jusqu'à 150 000 dollars, ce qui explique cette grande quantité de maisons qui n'attendent que d'être rachetées. J'étais par exemple dans le Upper Ninth, la rue Bartholomé, où a été construit un village spécialement pour des musiciens. On y trouve par exemple de très nombreuses maisons abandonnées. J'ai rencontré un Sud-Africain qui venait d'en racheter une. On voyait encore les traces d'humidité à 2 mètres de hauteur. Il ne restait que les murs et le toit, il fallait tout refaire. Cet homme était menuisier, donc il réparait lui-même, mais il était content du prix qu'il avait payé. Mais il expliquait que c'était un quartier chaud où avant il ne serait jamais venu, alors que ce quartier est aujourd'hui beaucoup plus mélangé. La mairie impose des amendes lorsque les terrains ne sont pas maintenus, lorsque le gazon n'est pas coupé, et ces amendes s'accumulent. Donc au bout d'un moment, le propriétaire doit tellement d'argent que la mairie exproprie, et ceux qui achètent sont en général des gens qui ont les moyens. D'où ce phénomène de blanchiment, entre guillemets, que l'on constate à la Nouvelle-Orléans. Le maire actuel d'ailleurs est blanc, alors que la ville est toujours majoritairement afro-américaine. Le phénomène est accentué par le développement de nouvelles industries, comme celle des jeux vidéo, qui attirent aussi un public différent. En attendant, la Nouvelle-Orléans a montré sa résilience après la catastrophe et on peut probablement compter sur cette ville pour maintenir ce qui fait d'elle une ville unique aux États-Unis tout en améliorant ses infrastructures vieillissantes jusqu'au passage de l'ouragan en Katrina.
La Nouvelle-Orléans, plus riche, moins noire, votre grand reportage, Éric Sanson, est à retrouver, à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr.
RFI, la sélection.